Chapitre 21. Depuis que Marichette avait quitté Saint-Maclou, il était rare que Paulin laissât s'écouler deux jours sans venir à Criquefleur. À la vérité, il ne faisait que passer devant la maison. Mais il voyait Marichette, leurs regards se croisaient, et cela suffisait pour qu'il ne désespérât point. Le premier jour, Marichette avait hésité à lever la tête vers lui, car ce n'était pas de cette façon qu'elle avait compris que devait s'exécuter l'engagement qu'il avait pris. Mais elle n'avait pas eu la force de résister à l'entraînement qui la soulevait, et le baiser qu'il lui envoyait, elle le lui avait rendu. Puis s'était établie bien vite l'habitude qu'elle le guettât elle-même, toute sa vie tenant désormais dans ses courtes minutes. Et comme elle ne savait jamais à l'avance à quel moment il apparaîtrait, du matin au soir, elle ne laissait personne passer dans la rue sans lever la tête. C'était en vain que sa cousine voulait la faire sortir. On ne pouvait l'arracher de sa place, il fallait qu'elle fût là, l'attendant. Que penserait-il s'il ne la trouvait pas, lui qui, pour l'apercevoir un instant, s'imposait une longue course? Que n'imaginerait-il pas? N'était-il pas assez malheureux? Et tout ce qu'elle avait d'amour dans le cœur, tout ce qu'elle éprouvait de gratitude pour son sacrifice, elle le mettait dans le regard qu'elle attachait sur lui. « Voilà, Monsieur Moreau !» disait bien souvent Célanie pour l'avertir. Mais cet avertissement était inutile, elle l'avait deviné avant que sa cousine, qui avait la vue perçante, l'eût aperçue. Ils avaient quelquefois la bonne fortune que Madame Belloc était sortie. Alors Marichette accourait sur le seuil de la porte, aussitôt qu'elle le voyait venir. Il passait plus lentement, et le regard qu'ils échangeaient était celui de deux amants en tête à tête. Seule, elle se reprochait souvent cette faiblesse, ne sentant que trop cruellement que ce n'était point un acheminement à la séparation si elle devait se produire. N'était-ce pas un crime de l'entretenir dans son amour, un manquement à la loyauté? Agissait-elle honnêtement en mettant cette adresse dans son regard, alors que, peut-être, elle était indigne de lui? Quand le peut-être fut devenu l'horrible certitude, elle décida que, quoi qu'il pût arriver, elle ne le verrait plus, ou plutôt, que lui ne la verrait plus. Il n'y avait plus d'espoir à conserver, plus de rêves dans lesquels on put se bercer et s'engourdir. Elle était indigne de lui, de son amour comme de son estime. Il ne pouvait plus désormais que la haïr et la mépriser. Ce serait un outrage de plus de montrer elle-même quelle misérable créature elle était maintenant. On cache sa honte, on ne l'étale pas. Et alors que sa cousine croyait qu'elle réfléchissait aux moyens qu'on peut employer pour faire disparaître une grossesse fâcheuse, c'était à Paulin qu'elle pensait, c'était lui qui emplissait son esprit et son cœur. C'était fini. À cette évocation, elle se sentait anéantie, haïe, méprisée par lui, et jamais il ne saurait comme il était aimé. Comme elle l'avait vu la veille, elle n'avait pas à craindre qu'il passât ce jour-là, elle pouvait donc descendre auprès de sa tante. Mais le lendemain, elle resta dans sa chambre toute la journée, en proie à la plus cruelle angoisse qu'elle eût encore supportée, peut-être. S'il ne devait pas la voir, elle n'avait pas de raison pour ne pas le voir, elle, à condition d'être bien cachée. Elle s'installa donc derrière son rideau, de façon à embrasser la rue du regard. Il n'avait pas d'heure précise pour passer, ne pouvant faire ce long détour que pendant sa tournée d'inspection des maisons en construction entre Saint-Maclou et Criquefleur. Mais c'était toujours dans l'après-midi, entre 3 et 5 heures, qu'il apparaissait. À 2h30, elle était derrière son rideau, attendant, dévorée par la fièvre, tremblante, défaillante, et, à mesure que le temps s'écoulait, éprouvant un vague soulagement, à se dire qu'il ne viendrait peut-être pas. Enfin, comme 4 heures sonnaient, il parut, marchant comme à l'ordinaire d'un pas rapide et léger. Elle pouvait regarder avec d'autant plus de sécurité qu'il la croyait en bas, auprès de sa cousine, et que c'était sur le bureau qu'il tenait ses yeux attachés, non sur la fenêtre où elle était. Il ralentit le pas, s'arrêta. Puis, ne l'ayant pas vue, il leva la tête, évidemment pour la chercher. Vivement, elle se jeta de côté et il ne l'aperçut pas. Quand elle put risquer un œil entre le rideau et la muraille, elle vit qu'il s'éloignait à pas lents et hésitants, en homme incertain et perplexe qui ne sait ce qu'il doit faire. Il continua ainsi jusqu'à une certaine distance, puis brusquement, il tourna sur lui-même et revint en arrière. Alors se répéta ce qui avait eu lieu la première fois. Même arrêt, même examen, et quand il leva les yeux vers sa chambre, elle dut encore se jeter de côté. Allait-il entrer dans la maison et interroger Madame Belloc sur cette absence ? Cette question était si pleine d'angoisse qu'elle suffoqua et qu'un sanglot s'échappa de sa gorge contractée. Elle attendit, écoutant. Mais les bruits de la maison, ne montant pas jusqu'à elle, ne pouvaient rien lui apprendre. Ce fut seulement quand, au bout de quelques minutes, elle le vit s'éloigner, la tête penchée, qu'elle comprit qu'il avait eu le courage de ne pas entrer. Il partait. Hélas, que pensait-il d'elle ? Après la lettre qu'elle lui avait écrite, après leur entretien au milieu des rochers, n'était-il pas en droit de croire qu'il n'était plus aimé ? Telle était l'horreur de sa situation qu'elle en était réduite à se dire que pour lui, c'était encore le moins cruel. S'il admettait qu'elle pouvait ne plus l'aimer, il l'oublierait peut-être, il se consolerait. Tout n'était-il pas préférable à l'horrible vérité ? Quand, au bout d'un certain temps, elle vint rejoindre sa tante, celle-ci lui annonça qu'elle avait vu passer Paulin. « Le pauvre garçon, dans quel état il était ? Tu n'as donc pas de cœur de ne pas le prendre en pitié ?» Le prendre en pitié, elle savait maintenant ce que sa cousine entendait par là. C'était le tromper, accepter de devenir sa femme. Elle ne répondit rien. Mais il arriva un moment où il fallut qu'elle parlât. De peur que Paulin ne changeât l'heure à laquelle il venait à Criquefleur, elle était restée le lendemain dans sa chambre et les jours suivants, n'osant même pas regarder par la fenêtre, travaillant sur sa table à des écritures qu'elle avait emportées. Et un jour, sa tante l'avait interrogée à propos de cette manie de ne plus se montrer dans le bureau. « Si tu es malade, je comprends que tu restes dans ta chambre. Mais si tu ne l'es pas, pourquoi ne descends-tu pas ? Tu n'as pas la prétention, je pense, de cacher ta grossesse à tout le monde. Il viendra un moment où elle ne sera malheureusement que trop évidente. Un peu plus tôt, un peu plus tard, peu importe. D'ailleurs, tu as encore du temps devant toi avant qu'elle crève les yeux. D'ailleurs, tu as encore du temps devant toi avant qu'elle crève les yeux. » Il fallait parler cette fois. « Ce n'est pas du monde que j'ai souci, » dit-elle. « Alors, c'est de Paulin. Je ne veux pas qu'il me voie. Il ne saura donc jamais. Mes yeux ne lui auront rien dit. Et s'il entre pour m'interroger, car depuis qu'il passe sans te voir, il me semble tous les jours qu'il va se précipiter dans le bureau. C'est un miracle qu'il se retienne. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise s'il me demande pourquoi tu n'es pas là ? La vérité. Merci, elle est jolie à dire, ta vérité. Faut-il donc que je la dise moi-même ? Il me semble que c'est ton affaire. Oh, ma cousine ! Dame, si tu avais voulu, si tu voulais, il est temps encore. » Dans son désespoir, elle eut un élan de résolution farouche. « Jamais ! » s'écria-t'elle. L'accent de ce cri exaspéra Sélanie. « À ton gré, » répliqua-t-elle en sifflant ses paroles. « C'est ton affaire, ce n'est pas la mienne. Si ce garçon se suicide, tu sauras à qui la faute. » Et comme Marichette ne répondait rien, Sélanie attendit un moment. Puis, comme le silence continuait, « Ne compte pas sur moi pour avertir ce garçon, » dit-elle. « Je ne compte sur personne, » répondit Marichette, « mais je croyais que puisqu'il vous avait inspiré une si vive sympathie, vous auriez pitié de lui. En as-tu pitié, toi ?» L'entretien en resta là. Pourquoi Sélanie aurait-elle accepté la lourde tâche de prévenir ce garçon que Marichette ne voulait pas épouser parce qu'elle était enceinte ? Il faudrait des explications, il y aurait des plaintes, des cris, des larmes, des désespoirs. Et justement, elle avait horreur de toutes ces expansions. Assurément, elle ne pouvait pas l'émouvoir bien profondément. Elle la laissait froide, cette voleuse d'héritage. De même que cet amoureux naïf l'intéressait fort peu. Mais enfin, il n'en était pas moins vrai que tout cela l'humiliait. Cette fille qui allait avoir un enfant était sa cousine. Elle voulait bien un procès qui déshonorerait le corsaire, mais elle ne voulait pas avoir l'embarras et la honte d'avouer ces choses-là elle-même. Paulin avait donc continué de passer, tantôt tous les jours, tantôt tous les deux jours, selon qu'il était plus ou moins profondément désespéré, et jamais il n'avait aperçu Marichette. Plus d'une fois, il avait paru vouloir entrer, mais le regard que Madame Belloc lui avait alors lancé l'avait toujours cloué sur le seuil.